soir. Oh, ça se bouscule, hein. Décidément, tout le monde veut faire de la banque comme autrefois Monsieur Jourdain faisait de la prose. Oui, Amazon, hein, qui s'apprête à dégainer ses offres pour les adolescents. En Chine, Alibaba, Tencent, qui n'ont pas attendu. On voit donc les géants de la tech américains, chinois. On voit les fintech, les opérateurs téléphoniques, les agents, les acteurs de la distribution. Tout se mélange sur fond de changement de la réglementation et d'émergence de l'intelligence artificielle. Alors, jusqu'où cette révolution numérique va bouleverser ce secteur? Et au fait, que restera-t-il aux banques? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, gros plan sur le secteur bancaire. Oh, il s'en passe tous les jours. J'ai eu envie qu'on ramasse un petit peu toutes ces informations à l'occasion de faire un point complet sur ce changement d'époque qu'on vit donc avec les agences, les GAFA, la banque en ligne, le mobile. Tiens, on va en parler avec un acteur de la banque, bien sûr, hein, directement, c'est Ronan Lemoyle, directeur général du Crédit Mutuel Arkéa. Avec nous également Jean-Pierre Lefebvre, associé senior de l'agence de design et de marque Lonsdale, Olivier Goy, fondateur de Lendix, qui est le numéro un du financement participatif pour les entreprises et qui permet aux particuliers de prêter aux TPE, aux PME et aux ETI. Et puis Fabrice Audan, associé dans le cabinet de conseil international KPMG, responsable du secteur banque. Alors c'est vrai que c'était juste avant le long week-end de Pâques, certaines sources avançaient que Amazon serait en discussion avec JP Morgan, avec Capital One, pour lancer auprès des ados une offre similaire à un compte courant, et puis offre qui serait proposée aussi à ceux qui ne disposent pas de compte courant. Tiens, Fabrice Audan, KPMG, on en sait un petit peu plus sur ce que Amazon pourrait proposer dans le secteur bancaire?
Je pense que les GAFA ont une puissance de feu assez considérable. Elles ont les moyens d'investir. Elles investissent beaucoup dans la recherche en technologie, dans la distribution. Elles sont multi-géographies. Et effectivement, elles ont commencé il y a déjà quelques années dans les paiements. Elles commencent dans la banque, dans les prêts. Jusqu'où elles iront? Elles sont assez douées pour travailler la donnée, avec les limites qu'on a vues récemment. Jusqu'où elles iront? Personnellement, je pense que il y a une partie de l'activité bancaire qu'elles peuvent prendre, une partie où elles n'iront pas pour des raisons réglementaires. La réglementation est clairement, on peut dire, une barrière à l'entrée.
Contraignante.
Ou contraignante pour des acteurs qui rentrent comme les GAFA.
Oui, alors ce que vous nous dites, c'est que Amazon n'a peut-être pas forcément d'expertise dans la matière bancaire, fondamentalement, et que finalement, elle n'aurait peut-être pas forcément le droit de mettre un pied. En revanche, ils sont très bons dans le contact avec les clients, dans la gestion des données. Quelque part, l'idée, ça serait quoi? De sous-traiter à des banques lesquelles sont en perte de vitesse dans la banque de détail?
Je les vois personnellement plus en partenariat.
Oui, en partenariat, c'est ça.
Entre effectivement les GAFA, voilà, les banques et voir les fintechs.
Avec des banques qui pourraient éventuellement, Olivier Goy, qui pourraient éventuellement s'effacer, produire du service, du contenu, finalement apparaître un peu en marque blanche quelque part à l'intérieur de ces GAFA, de ces géants américains ou chinois.
Alors il faut rappeler que les GAFA aussi, ils aiment bien aller là où ils ont un angle particulier. Par exemple, dans notre secteur du prêt, ils sont très très efficaces pour faire du prêt à leur e-marchand. Vous savez qu'Amazon, c'est avant tout, ils opèrent une marketplace. Ça fait bien longtemps que ce n'est plus un vendeur de livres. Et quand ils opèrent du prêt à leur e-marchand, ils sont très forts parce qu'ils ont énormément de données. Ils connaissent leur notation, ils connaissent leur comportement. Puis surtout, ils sont à la source, ils sont au robinet. C'est-à-dire quand ils doivent se faire rembourser le prêt, ils prélèvent du consommateur pour se faire rembourser prêt avant même que ça passe par le e-marchand. Donc c'est une position qui est assez extraordinaire. Mais passer pour autant du prêt au e-marchand au prêt en général, c'est encore une autre histoire. Donc je ne suis pas sûr qu'ils aillent au prêt en général, parce que là, ils n'ont pas d'angle, ils sont comme tout le monde. Donc encore une fois, je pense qu'il faut les attendre là où ils ont un angle particulier grâce à la donnée. Si ce n'est pour rentrer de front avec les banques sur des secteurs sur lesquels ils n'ont pas d'angle particulier, à mon avis, on ne verra pas grand-chose de ce point de vue-là.
C'est là où on peut les voir débarquer, en effet, Ronan Lemoyle. Ils n'iront pas faire forcément votre métier de banquier, vous le patron de Crédit Mutuel Arkéa, mais quelque part une sorte de partenariat de sous-traitant, je ne sais pas comment
appeler ça. Je pense qu'effectivement, là, il faut se méfier, entre guillemets, je me place du côté des banquiers, les GAFA ont montré, les acteurs du digital, on en reparlera peut-être tout à l'heure, ont montré par définition qu'ils avaient réinventé la relation et la manière de capter la donnée, de l'utiliser, faire du marketing intelligent, ce que les acteurs bancaires peut-être par le passé n'ont pas fait suffisamment. Et ce faisant, effectivement, comme disait Olivier, ils prennent un angle particulier pour ensuite venir attaquer les banques. Là où il y a un risque potentiellement, il faut s'en méfier, on est très vigilant à bien garder la relation avec le client, c'est que si les banquiers devenaient en mode partenariat des sous-traitants, au final, des GAFA, ils deviendraient les acteurs qui se contenteraient, entre guillemets, de la couche basse, finalement, de valeur ajoutée, l'espèce de back-office qui gère la réglementation et les volumes, n'aurait plus le lien avec le client. Et quand on n'a plus le lien avec le client, on perd potentiellement beaucoup de valeur. Donc, je crois qu'il faut, certes, voir les GAFA rentrer dans cette brèche, pas sur tous les sujets, mais sur certains sujets bien ciblés, et bien voir le risque quand on est banquier de, si on ne se repose pas assez la question de la relation au client, on peut se faire bypasser assez vite.
Oui, ça viendra un jour peut-être, hein. Vous avez vu ce qui s'est passé dans d'autres secteurs.
Dans d'autres secteurs, ça s'est passé, et quand on regarde d'autres secteurs, la grande distribution par exemple, quand on voit ce qui se passe dans la grande distribution, les accords qui sont mis en œuvre aujourd'hui par certains grands
Amazon
distributeurs...
Amazon Monoprix par exemple. Ben
exactement, ça ressemble quelque part à ça. Et donc on voit tout doucement que ceux qui ont compris que ce qui fait du sens, c'est la couche haute de valeur, qui est la relation au client, quoi qu'on en fasse, ils sont en train tout doucement de grignoter ceux qui pourraient devenir, s'ils n'y prêtent pas attention, juste ceux qui font des prestations de services uniquement.
Attention, nous dit Ronan Lemoyle. Jean-Pierre Lefebvre.
La relation client, c'est vraiment la clé de la banque de demain et du commerce de demain. Parce que ce qu'on est en train de se dire ce soir sur la banque, on l'a dit à peu près il y a 10 ans en parlant du commerce. Moi, on m'a dit que mon métier était fini. Nous, on est des experts du commerce. On dessine des magasins et surtout des parcours clients. Et clairement... on a besoin de magasins différents aujourd'hui, on a besoin de banques différentes qui sont beaucoup plus relationnelles aujourd'hui, mais on aura toujours besoin des deux. Des endroits pour discuter, pour recevoir, pour écouter, et puis des facilités de plus en plus grandes qu'apporteront le monde des fintechs.
Alors, il faudra nous expliquer d'ailleurs un petit peu plus tard justement à quoi vont ressembler donc les agences bancaires dans les années 2018-2020. Oui, on a les géants chinois aussi sont très offensifs aussi. Je citais donc Alibaba, je citais Tencent également, Fabrice Audan, KPMG.
Je veux venir sur le parcours client en fait. On est en train de faire une étude sur les clients multisecteurs en fait, autour de 6 critères. Un critère de personnalisation de parcours client, un critère d'intégrité, c'est la capacité d'offrir un service dans la durée, un critère d'éthique, est-ce que j'ai un comportement éthique, un critère fondé sur la capacité de répondre aux clients rapidement. En fait, l'étude sera publiée fin mai, mais ce qui ressort aujourd'hui, c'est que les 3 critiques faites aux banques aujourd'hui sont sur le manque de personnalisation, l'éthique, c'est-à-dire la capacité d'offrir un service dans la durée, un service de qualité, et la capacité, effectivement, de répondre très rapidement ou suffisamment rapidement au client.
Oui, c'est-à-dire
donc le client est vraiment au centre de cette problématique-là, en fait.
Jean-Pierre Lefebvre.
Alors, moi, j'ajouterais on est exactement dans cette logique, hein, d'avoir une relation, de reconnaître le client, de l'appeler par son nom. Mais il y a aussi une notion de symétrie des attentions. C'est-à-dire qu'un client, sa banque demande des choses très intimes, sa date de naissance, des choses comme ça. Et il faut que le cadre dans lequel on demande ces choses-là soit un cadre dans lequel le client se sente respecté, écouté. C'est vraiment un point clé.
Et les banques, en effet, dans l'étude KPMG, en effet, disposent d'un capital confiance élevé par rapport aux GAFA ou par rapport à d'autres. Hein. C'est ça,
c'est ce que vous montrez,
Fabrice Audan. Oui, Ronan Lemoyle.
En fait, moi, ce que j'observe dans notre métier, c'est que notre métier, finalement, quand on le regarde avec 30 ans de recul, le métier de banquier, c'est un métier, je le dis un peu en caricaturant, mais c'est important par rapport à la position du client, c'est qu'on est le seul commerçant, finalement, qui a le refus de vente possible. Le banquier peut refuser de faire un crédit. Alors, je le dis volontairement en poussant le trait. Mais ça crée une relation, entre le client et son commerçant, qui n'est pas exactement celle qu'on a dans d'autres industries. Et pour rejoindre ce que vous disiez à l'instant, je crois qu'aujourd'hui, il faut que les banquiers comprennent qu'il y a 2 dimensions dans leur métier, un peu plus, mais 2 pour schématiser. La dimension transactionnelle, tout ce que je peux faire sur un téléphone portable, ouvrir un compte, faire des virements, des arbitrages, etc. Et la dimension relationnelle. Ce que les gens viennent chercher à un moment donné dans une agence, ça n'est pas, vous n'avez jamais rêvé, Fabrice, de faire un crédit immobilier, vous avez peut-être rêvé d'acheter un appartement. Et effectivement, c'est une expérience qu'il faut accompagner. Et ça, c'est important.
J'entends bien, mais est-ce que Amazon, justement, ne va pas proposer d'ouvrir des comptes à ceux qui ne disposent pas de compte dans un établissement bancaire traditionnel? Est-ce qu'ils vont pas s'engouffrer dans la brèche?
Moi, en tout cas, je ne pense pas qu'ils iraient jusque-là. En tout cas, c'est simplement la chose
que Amazon, par exemple, vis-à-vis des adolescents, va proposer peut-être dans le produit, dans le package, le fameux Amazon Alexa, c'est-à-dire donc l'assistant personnel. Vous arriverez à lutter contre tout ça?
Je pense que si nous sommes capables, nous, de trouver notre terrain de jeu, qui est le terrain de jeu de l'expérience qu'on propose, par exemple, avoir un projet immobilier, ça n'est pas juste faire un crédit immobilier. Ouais. Alors un projet immobilier, c'est trouver un bien, éventuellement un terrain si on fait construire une maison, c'est avoir un agent immobilier, avoir un constructeur, c'est peut-être faire de la domotique à l'intérieur, etc. Donc en fait, c'est une expérience. Et cette expérience, il faut être capable de l'accompagner de sorte qu'on soit légitime, y compris quand on pousse un produit financier. Amazon, dans son registre, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont peut-être utiliser le proxy d'un produit bancaire pour avoir une expérience dans laquelle ils auront leur offre intégrée. Donc nous, c'est notre enjeu. Notre enjeu à nous banquiers, c'est de ne plus vendre des produits, c'est dans la relation. Et la relation, c'est quelque chose qui qui fondent l'existence d'un commerce ou pas.
Vous voulez vous accrocher à ça, vous rêvez que ça continue comme ça.
Mais... Non. Je ne rêve pas. Aujourd'hui, par exemple, chez nous, je ne peux parler que de ce que je connais. Chez nous, on est clairement passé d'une logique où nous étions dans une logique comme beaucoup d'autres où on vendait les produits, une logique où on accompagne les gens sur les parcours de vie. Un parcours immobilier, un parcours des études des enfants, un parcours pour un mariage, etc. Et ça, c'est une logique qui ne vient pas par une vente de produits en tant que telle. Et l'agence, pour ce faire, est un support dans lequel je vais vendre une expérience dans le cadre d'une relation avec un conseiller dans un lieu de vie très particulier et plus un endroit dans lequel je vais uniquement vendre des produits. Parce qu'en fait, quand vous achetez une voiture, vous n'achetez pas un allume-cigare, un siège avant droit, un siège avant gauche. Vous achetez une voiture qui vous fait rêver. Quand vous allez chez un banquier demain ou un financier, ce que vous cherchez, c'est un support financier, le produit, mais dans une expérience globale qui vous fasse, elle, rêver. C'est ça qui est important.
Oui, à condition que cette banque, Jean-Pierre Lefebvre, elle soit accessible, disponible 24/24.
Qu'elle ait des conseillers, qui soient des vrais experts, qui soient capables de reprendre ce que j'ai commencé sur Internet au moment où j'arrive. Donc il y a quand même aujourd'hui un rôle clé qui va être celui du conseiller bancaire, qui va être un rôle extrêmement difficile. On le voit dans tous les marchés.
Est-ce que les grandes banques auront toujours moyen de maintenir ce type de conseiller
disponible 24/24. C'est vraiment un des combats de demain, hein, de mettre les conseillers à la hauteur des attentes, parce qu'on a aujourd'hui, grâce à Internet, des clients experts, et il faut leur répondre avec beaucoup d'intelligence.
Pourquoi ça se bouscule comme ça, Olivier Goy, à la tête de Lendix, on parle d'Amazon, de Tencent, d'Alibaba, bien sûr. Puis on voit de plus en plus d'acteurs qui sont pas forcément proches du secteur bancaire. Fnac, Carrefour, Orange, Samsung, Apple, Google, la compagnie malaisienne AirAsia qui vient de lancer une offre de transfert d'argent en Asie, c'est BitPay. Bon, on voit également une accessibilité qui est élargie. Maintenant, on n'est plus obligé d'aller dans les agences. On fait ça sur son mobile ou on va au bureau de tabac.
Mm-hmm. Alors, d'abord, la raison pour laquelle il y a autant d'acteurs qui s'intéressent au marché bancaire au sens large, c'est parce que c'est un marché qui est large, tout simplement. C'est ça qui excite. Nous, juste sur le segment du prêt, qui est un segment parmi tous les métiers de la banque, c'est 80 milliards d'euros de nouveaux prêts qui sont faits chaque année. Donc, on parle de marché très large. Quand vous additionnez ça, forcément, au niveau européen, c'est énorme. Si je peux me permettre une remarque sur ce que j'ai entendu, vous avez interrogé les mauvaises personnes, là, notamment Renan. C'est le plus fintech des banquiers. Donc, vous avez quelqu'un qui a réfléchi le projet en amont. On discutait avec Fabrice tout à l'heure. Imaginez quand vous êtes en Allemagne, vous avez plus de 1500 banques. La plus grosse banque, elle a 3-4% de part de marché. Et elle sait qu'elle doit se réinventer comme ce qui a été décrit là.
Par Jean-Pierre Lefebvre.
Et comment elle fait pour se réinventer? Où elle va chercher ce budget? Parce que repenser complètement son informatique de A à Z, parce que pour avoir un conseiller disponible effectivement 24 heures sur 24, avoir une expérience qui soit sans couture de l'agence au téléphone ou au web, ça demande d'énormes investissements. Donc le vrai choc qui va y avoir sur le système bancaire, je ne crois pas du tout moi un scénario les fintechs tuent les banques, c'est pas du tout le cas. Mais je pense que les fintechs mettent la barre beaucoup plus haut en matière d'attente des clients. Et ce qui fait qu'il va y avoir deux catégories de banques, je pense que c'est un scénario tout à fait plausible, celles qui vont investir pour pouvoir être à la hauteur de ces attentes et celles qui ne pourront jamais investir. Et ça, en France, on a, si on se passe du point de vue global, plutôt de la chance parce qu'il y a un nombre assez limité de banques et avec des bons moyens, ils font des bons résultats.
Elles le font toutes, elles se lancent toutes dans le
business. Elles le font toutes.
Pourquoi vous dites par exemple que Crédit Mutuel Arkéa et Renan Lemoyle, c'est le plus tech finalement de tous les banquiers?
Pour lui faire plaisir parce qu'il est sur le plateau.
Ah bah oui,
non. Non, mais là.
On aurait eu Monsieur Société Générale, vous auriez dit la même chose.
Non, la réalité quand même pour.
Ou BNP,
au-delà de la petite blague. Non, mais pour au-delà de la petite blague, ça fait longtemps que Crédit Mutuel Arkéa est un actionnaire actif d'énormément de fintech, c'est-à-dire que la position est engagée en plus au capital de ces fintech. Donc ils comprennent vraiment le sujet. Dans l'intérieur. Après, il faut faire attention aussi. Il y a eu deux comportements, je pense, aujourd'hui, à la fois chez les assureurs et les banquiers. Il y a ceux qui l'ont fait parce qu'ils poussaient par la vague. Ils ont compris que cosmétiquement, ils ne pouvaient pas dire qu'ils étaient contre. Donc, il fallait aller pour. Mais qui, en fait, les directions générales ne sont pas du tout immergées dans le problème. Et puis, il y a celles qui ont vraiment compris qu'il fallait se transformer et y aller fort.
Fabrice Audan, KPMG, le phénomène de tous ces acteurs qui se multiplient, ils s'accélèrent. Qu'est-ce qui justifie ça? C'est la généralisation, par exemple, du sans-paiement, du paiement avec mobile?
Je pense que Olivier l'a dit, le marché est large. Et ensuite, pour moi, ce qui est fondamental en travaillant à la fois avec les banques et les fintechs, c'est que la base de tout, c'est la tech. La tech crée de la valeur. La disruption, elle viendra plutôt. Ceux qui seront disruptés sont ceux qui n'iront pas vers la tech, comme Olivier le disait. Une banque qui, aujourd'hui, n'irait pas vers l'innovation technologique se ferait disrupter.
Les banques, elles sont un peu suiveuses par rapport à tous les acteurs de la tech ou pas?
Je pense que les banques, aujourd'hui, en France, ont pris conscience qu'il fallait bouger. Je pense qu'elles bougent beaucoup plus vite depuis 3-4 ans, en interne, en externe, en partenariat avec les fintechs. Et je pense qu'aujourd'hui, le tournant est pris. Il faut aller vite.
faut l'éviter.
Ouais, dans le moelle.
Notre industrie, c'est une industrie qui s'est longtemps vécue avec une situation, entre guillemets, de mode de fonctionnement. Il n'y a pas d'acteurs qui venaient les concurrencer. Il n'y a pas de nouveaux entrants. Ça implique quoi? Ça implique que finalement, dans un contexte où, faire court, les taux ont baissé, la marge baissait certes, mais on pouvait toujours optimiser en grossissant, en optimisant les coûts. Donc finalement, on compensait ça par la taille. Or, aujourd'hui, moi, je cite souvent cette phrase du Dalai Lama qui dit que si vous croyez être plus trop petit pour changer le monde, il faut dormir avec un moustique, on en reparle demain matin. Pourquoi je dis ça? Je
pense que d'un coup.
Dans notre secteur, la taille, c'est plus l'alpha et l'oméga. Je pense que dans notre secteur, ce qui est l'alpha et l'oméga, c'est d'être capable, justement, par la technologie, mais aussi par la réinvention de la promesse marketing qu'on fait. Parce que ce qu'on dans FinTech, il y a finance et technologie. Le côté finance, il cache aussi la dimension marketing qui est très évoluée chez ces acteurs-là. Et nous, ce qu'on vient chercher quand on fait des partenariats ou quand on fait des alliances capitalistiques avec les acteurs des FinTech, c'est certes un nouveau relais de croissance potentiel pour notre développement. C'est aussi, on pourra en parler peut-être, des synergies de nos réseaux de distribution, mais c'est aussi une manière de réinventer la dimension marketing qui est fondamentale. Et ça, je crois que c'est un des sujets qu'on minore un peu trop, c'est que ces nouveaux acteurs qui rentrent également nous réapprennent comment on doit faire du marketing pour nos clients.
Vous leur dites bravo quand même.
Bien sûr, on leur dit bravo. On les accompagne beaucoup.
Il y a quelque chose qui montre tout à fait ce que vous dites, c'est la dimension des marques. Hein. Aujourd'hui, on peut dire que à peu près tous les réseaux bancaires, toutes les banques françaises ont des marques présentielles. Hein, elles ont joué sur des agences. Vous regardez une agence dans Paris, vous avez 15, 20 enseignes qui portent le nom de la marque. À l'intérieur, il y en a zéro. Hein. Et les marques qui arrivent justement des GAFA, des fintech et qui vont les concurrencer violemment aujourd'hui sont des marques relationnelles. Vous regardez, il y a un truc merveilleux, c'est chez Starbucks, on va écrire votre nom sur votre gobelet. Apple, regardez l'Apple Store qui est derrière l'Opéra, la marque est toujours sur des supports souples. C'est les t-shirts des vendeurs ou c'est des kakémonos, des drapeaux à l'extérieur. Donc, il va falloir que la banque...
Vous voulez dire par là?
Eh ben, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que la banque cesse d'être dans une posture de démonstration de puissance et de démonstration de territoire pour devenir l'ami du quotidien des gens. Et puis, il y a une deuxième dimension quand on est une marque relationnelle, c'est où commence l'expérience et elle finit. On a toujours, dans les dernières années, raisonné en disant ça commence quand on rentre dans le magasin. En réalité, on le sait bien, c'est comme quand on décide d'aller quelque part en avion. L'expérience Air France, elle commence à partir du moment où on décide d'aller à Londres ou d'aller à Milan. Elle commence pas quand on rentre dans l'avion. Et il faut refaire la totalité de ce parcours.
Mais on parlait d'innovation, on parle beaucoup et le président de la République, la semaine dernière, présentait son plan pour l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça va apporter, l'intelligence artificielle, à ce secteur? Quels sont les usages? Allez-y, Olivier Gouin à la tête de l'Endix.
Non, mais c'est clairement le sujet central des fintechs. D'ailleurs, il y a l'association France Fintech organise la semaine prochaine sa grand messe annuelle. Le sujet central, c'est l'intelligence artificielle. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure quand on parlait d'Amazon, qu'est-ce qui fait que les uns ou les autres décident de rentrer, d'être plus efficaces sur un secteur? C'est parce qu'ils ont accumulé de la donnée. Et la donnée, à un moment, il faut la traiter. Parce que de la donnée non traitée, ça, on sait très bien faire. Et les banques l'ont fait pendant des années, d'avoir de la donnée non traitée. Donc aujourd'hui, si on veut la traiter de manière efficace, c'est l'intelligence artificielle. Et surtout, globalement...
Et dans les banques, qu'est-ce que ça apporte alors?
Si je prends notre secteur, c'est prendre des décisions de crédit plus intelligentes parce qu'on s'appuie sur plus de données. C'est ça l'intelligence artificielle. Et il faut voir qu'aussi pourquoi l'intelligence artificielle est très importante. C'est parce que globalement, il y a un modèle aussi, et c'est là où ça fait mal à l'ensemble de l'écosystème, qui est plutôt déflationniste. C'est-à-dire que toutes les fintechs qui rentrent, les néobanques, etc., sont plutôt... sur une approche de baisser les coûts par rapport aux tarifs que l'on connaît habituellement dans l'univers bancaire. Et quand vous baissez les coûts, il faut bien faire des gains de productivité. Si vous voulez faire des gains de productivité, il faut de la technologie et il faut pas mettre de l'intelligence simplement humaine, il faut mettre de l'intelligence artificielle. C'est là où le combat est évident. C'est évident que c'est la voie dans laquelle il faut aller. Et si vous voulez juste mettre une couche sympathique, une interface web, et puis derrière c'est tout traité à la main, vous n'y arriverez pas. Donc c'est le passage obligatoire.
Ça libère des tâches, des chargés de clientèle, de tâches répétitives. Ça permet, comme le disait Olivier Bois tout de suite, des simulations d'investissement en grand nombre, ce qu'on ne pourrait pas faire avec nos yeux et nos mains.
Le meilleur exemple, c'est effectivement...
Fabrice Audan, donc KPMG, allez-y.
Aujourd'hui, vous avez encore des banques qui vous appellent, vous vendent des choses que vous ne voulez pas acheter. Si vous travaillez bien 30 ans de données de Fabrice Audan, vous allez probablement vous apercevoir qu'il y a des choses que je ne veux pas acheter. Il y a des choses que je veux peut-être acheter. Donc ça permet d'augmenter le hit rate des chargés commerciaux qui vont plutôt aller vendre des choses que le client veut acheter. Pareil sur le suivi des risques. Et c'est inéluctable en fait. Et ça libère du temps pour que le conseiller fasse leur métier de conseiller.
Qu'est-ce que vous faites, vous, en matière d'intelligence artificielle chez Arkea, Renaud Lemoyne?
Nous, ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, notre première avancée sur le sujet, d'abord, l'intelligence artificielle, moi, je dis, mais elle ne doit pas nier le fait que la dimension de relation de proximité, en fait, la banque en ligne chez nous, mais la dimension de relationnel en agence doit continuer à exister. Pour autant, ce qu'on a fait, nous, tout simplement.
Les salariés sont libérés, justement, d'un certain nombre de tâches et peuvent peut-être davantage
se concentrer. En tout cas, ils se concentrent, effectivement, sur la dimension relationnelle qui est là où on les attend. Et par ailleurs, l'écosystème qu'on s'est bâti autour de nous en termes de fintech, ce qu'on a constitué un éco-fintech quelque part, qui sont soit des fintech avec lesquels on fait des partenariats, soit celles qu'on a créées nous-mêmes, on vient d'en créer une il y a encore quelques mois. C'est un écosystème qui nous permet finalement de laisser le conseiller se concentrer effectivement sur la dimension relationnelle d'une part, et de profiter également de toute cette intelligence artificielle que ces fintech ont développée pour leurs propres besoins. Parce que l'une des convictions qu'on a pour rejoindre la notion d'expérience, c'est que finalement ce que les gens recherchent est de l'expérience dans le magasin et pas forcément la force de la marque, en tout cas son fait de s'imposer comme une marque en tant que telle, et c'est que l'architecture ouverte, c'est surtout le sens de l'histoire également. Dans notre secteur d'activité, qui s'est longtemps vécu comme un secteur où il vendait ses propres produits et uniquement ses propres produits, être capable demain de vendre une expérience relationnelle dans laquelle je trouverai des produits de chez moi sans doute, mais également d'autres acteurs que je vais venir fédérer, de la fintech, mais pas seulement. On vient d'ouvrir là, nous, hier, un concept d'agence dans le sud-ouest qui vise, d'agence physique, qui vise à faire un partenariat entre un constructeur de maisons et un banquier que nous sommes. L'idée étant tout simplement de dire je vends l'expérience du projet immobilier et je suis capable de faire une alliance en architecture ouverte où je vends autre chose que mon crédit immobilier. Et demain, ce sera de la domotique et demain, ce sera des paiements peut-être avec une fintech comme Litchi avec laquelle on travaille aujourd'hui, etc., etc., etc. Donc je pense que cette dimension de le digital ne tue pas l'humain, il le renforce, est un point fondamental. Simplement, le digital ne va pas renforcer l'humain en faisant croire à l'humain qu'il fera comme la machine, c'est en laissant l'humain la place qui est la sienne, c'est de faire vivre une belle expérience dans le magasin. Et ça se fait avec le support des acteurs, notamment digitaux, qu'on peut aujourd'hui trouver sur le marché.
Jean-Pierre Lefebvre, Lonsdale.
Ce croisement des expériences et ce croisement des savoirs, on le voit également beaucoup dans le commerce, parce que nous, on fait beaucoup de chaînes d'hypermarchés qui aussi se posent beaucoup de questions, et à l'intérieur desquelles, on va mettre des restaurants, on va mettre des conseillers diététiques. Dans le fond, on va devenir un compagnon de vie. Hein, et je pense que la banque a une mission extraordinaire, je pense qu'il l'a un peu oublié, parfois on a l'impression qu'il l'a un peu oublié, d'accompagner la vie des gens, la vie de leurs enfants, leur sécurité. Il y a quand même des enjeux qui sont très importants et très impliquants pour les gens, et parfois on a l'impression qu'ils sont traités un peu légèrement.
Il y a une nouvelle réglementation aussi, depuis le début de l'année, la fameuse directive européenne sur les services de paiement, qui organise la concurrence dans ce rayon, dans ce compartiment de la finance, qu'on appelle la DSP2. On va pas en faire des tonnes, hein. Pardon, Renaud Lemoyne, on va pas faire fuir tout le monde, mais il paraît que ça va considérablement changer donc le secteur, ce qu'on appelle donc la banque ouverte, l'open banking. Qu'est-ce que ça va apporter?
Pour faire simple et donner une image, parce que pour parler clairement, il y a des acteurs nouveaux qui vont pouvoir être créés. D'ailleurs, Linxo en fait partie, Bankin et quelques autres, qui vont être capables d'agréger toutes vos positions bancaires sur un seul outil et vous permettre ensuite de faire toutes vos opérations depuis cette plateforme. Dit autrement, j'ai un compte dans 5 banques, je les agrège tous sur la même plateforme et c'est celui qui a la relation en haut, donc l'agrégateur, qui peut vous proposer des produits nouveaux et vous proposer de faire des virements de compte à compte. Donc en fait, ça remet au centre la relation, c'est celui qui a la relation qui a la force. C'est pour ça qu'il faut être là, il faut être sur la couche du dessus et ne pas se contenter, je le dis volontairement, comme étant celui qui va juste gérer la position de compte, le compte bancaire, qui lui va se retrouver totalement coupé de son client et ne pourra plus le faire vivre l'expérience et donc plus faire vivre du tout sa boîte par ailleurs.
Tout va passer par des plateformes qui sur la relation client, c'est ça? Donc Olivier Goua,
Non mais je pense que DSP2 c'est un très bon point, parce que ça illustre une chose, c'est que tout ce qui arrive, c'est pas simplement grâce à la technologie, c'est grâce à la réglementation. C'est-à-dire ça, il faut avoir conscience de ça, c'est que la plupart des acteurs qui peuvent vivre comme aujourd'hui, et l'Index est un bon exemple, vivent grâce à la réglementation. La raison pour laquelle l'Index peut faire du prêt, c'est pas que la technologie lui permet, c'est vrai que la technologie nous permet, mais c'est parce que la réglementation a ouvert une brèche dans le monopole bancaire en 2014. Jusqu'avant cela, c'était strictement interdit. C'est-à-dire, en particulier, il faisait du prêt à une entreprise, c'était la casse prison plus amende. C'est enfin ouvert depuis 3 ans. DSP2, c'est la même chose. Et ça ouvre des nouveaux usages. Prendre un exemple très concret de DSP2, comment ça impacte une plateforme de prêt comme Lendix? Ce que ça nous permet de faire, par exemple, c'est quand quelqu'un, une entreprise, vient solliciter un prêt, elle nous donne tout simplement le droit d'accéder à ses comptes bancaires. On rapatrie tous les flux cash de ses comptes bancaires et grâce à ça, on fait une analyse crédit encore plus pertinente. Mais même encore plus pertinente qu'une banque, parce que quand un banquier aujourd'hui fait un prêt, il se concentre sur les analyses des flux dans sa banque, pas dans les autres banques. Aujourd'hui, grâce à DSP2, on est capable de s'interconnecter à toutes les banques.
D'accord. Tout balayé.
Voilà, Renan citait Bankin. Voilà, c'est un de nos prestataires qui nous aide, grâce à son API, grâce à son petit bout de code, à s'interconnecter de manière extrêmement simple. Et là, encore une fois, plutôt que dire à un chef d'entreprise, donnez-nous une copie de tous vos relevés bancaires, ce qui le fait suer. Il va falloir les photocopier, les scanner, nous les envoyer. Ouais. Eh ben non, en 3 clics, il nous a autorisé, dans un cadre réglementé, donc balisé, l'accès à ses comptes et on est capable de lui donner une décision de crédit qui est meilleure, donc c'est-à-dire plus protectrice pour nous et qui est plus rapide pour lui.
Et tout ça contribue, Fabrice Audan, donc KPMG, à cette émergence de tous ces nouveaux acteurs et finalement cette concurrence qui s'exacerbe.
Au bout du bout, c'est plutôt le client qui va en bénéficier, parce qu'effectivement, ça va être mieux maîtrisé, un moindre coût. Les banques voient des SP2 parfois comme une menace. Moi, je le vois plutôt comme une opportunité parce qu'il n'y a pas le choix. Il faut y aller. Et soit on y va et on essaye d'être effectivement en haut du panier, soit on ne le fait pas et on va être effectivement disrupté.
Bon, allez, on va se retrouver dans un instant. Oui, que restera-t-il aux banques, justement, dans ce contexte de réglementation qui change, de nouveaux acteurs donc qui se précipitent? On se retrouve avec les décodeurs de l'écho dans un instant sur BFM Business, à la télé, à la radio. À tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Qu'est-ce qui va rester aux banques alors que tous ces acteurs, eh bien, s'agitent tout autour, les Amazon, les Tencent, les Orange, les Samsung, les compagnies aériennes, les acteurs de la distribution, Carrefour, Fnac, je ne sais quoi encore. On continue à en parler donc avec Fabrice Audan, associé chez KPMG, avec Olivier Gouin, fondateur de Lendix, Jean-Pierre Lefebvre, associé senior chez Lonsdale, agence de marque et design, et puis Ronan Lemoyne à la tête du Crédit Mutuel Arkéa. Tiens, je ne sais pas si on appellera encore le Crédit Mutuel Arkéa dans quelques semaines. En tout cas, vous êtes engagé dans une procédure de divorce avec la Confédération Nationale du Crédit Mutuel. Un mot juste là-dessus, c'est votre actualité, puisque vos adhérents, 331 caisses locales, donc Massif Central, Bretagne, Sud-Ouest, etc., votent encore pour une quinzaine de jours. Où est-ce qu'on en est, justement? C'est le divorce, c'est la scission ou pas qui se profile?
Écoutez, le vote est en train de se passer. Ça se passe plutôt bien, au sens, c'est plutôt un plébiscite aujourd'hui, mais il ne sera pas terminé, sera terminé mi-avril pour l'indépendance. Juste un mot pour dire la raison d'être, parce que c'est ça qui est important.
Oui, parce que moi, je parle de divorce, de scission, qu'est-ce qu'on dit?
En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a un sujet autour des apparences et un sujet sur ce qu'on refuse. Les apparences, c'est que voilà deux sociétés qui portent le même nom, Crédit Mutuel de l'Est, on va dire, et nous-mêmes qui portons le même nom, mais qui sont deux entreprises différentes, deux stratégies différentes. Et je les oppose pas. Une stratégie faite pour ce qui me concerne d'agilité liée à notre taille, faites beaucoup de technologie également, et faites de réinvention, en tout cas on y croit, de la Banque de l'État. Et c'est une stratégie qui nous est propre, qui a porté ses fruits, qui fait qu'aujourd'hui...
Ce que vous dites vaguement, c'est les anciens contre les modernes.
Non, je dis pas ça, on est l'acteur... J'aurais pas dit ça comme ça, j'aurais dit simplement qu'aujourd'hui nous sommes l'acteur qui investit plus dans les fintechs en 2017, on a fait un tiers des levées de fonds des fintechs en France en 2017, nous sommes l'entreprise en France qui investit le plus en capital investissement, 17% de fonds propres en capital investissement, et de manière générale l'entreprise qui fait le plus en proximité. Et ce que nous voulons, c'est défendre ce modèle. Et ce modèle se trouve aujourd'hui heurté par un projet de centralisation qui viendrait mettre à mal cette capacité que nous aurions à continuer à développer comme nous le souhaitons.
C'est pour ça que vous avez reçu le soutien de poids lourds de la tech comme Fleur Pellerin, Marie Eklund, Olivier Mathiot, Frédéric Mazzella, PKM aussi, d'autres,
c'est
ça ?
Exactement, plein de soutiens qui voient en nous quoi ? Pas une boîte qui demande son indépendance pour l'indépendance, qui demande son indépendance parce qu'elle revendique d'avoir une empreinte économique qui se justifie en termes d'existence. C'est ce que nous demandons aujourd'hui. Nous sommes de ceux qui pensons, et nous avons des démonstrations pour le faire, que le projet qui est en cours est un projet de centralisation qui ne permettrait pas de continuer à faire ça. Or, nous pensons aujourd'hui qu'avoir une entreprise qui accompagne, une banque qui accompagne les acteurs du digital et une entreprise qui investit beaucoup dans le capital des entreprises, c'est important. C'est ça que nous revendiquons. C'est ce vote qui, j'espère, permettra d'aller jusqu'au bout de cette démarche.
Bien, alors on continue. Donc, les services qu'on trouve maintenant dans le secteur bancaire. Quels nouveaux services sont apportés par le digital? On a l'impression, tiens, Fabrice Audan, associé chez KPMG, que commercialiser des services de paiement, ça n'a jamais paru aussi accessible. Quelle panoplie proposent aujourd'hui les acteurs traditionnels et les nouveaux acteurs? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire d'un côté? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire encore de l'autre?
Je pense que l'ouverture s'est faite sur les paiements, parce que les paiements étaient l'activité probablement la moins réglementée, dans laquelle il y avait des niches d'accès possibles. Ensuite, on a été vers les néobanques, on a été vers le financement alternatif, avec une réglementation qui s'est assouplie, qui a permis effectivement le démarrage d'activité. On va vers la surtech, on va vers la blockchain. Blockchain est intéressant, parce que là, il y a quand même un certain nombre de vides juridiques, donc il faut que la réglementation organise la blockchain. Donc on peut faire quand même beaucoup de choses comme fintech, parfois sans, parfois avec des agréments.
Olivier Gouin,
je pense que...
Vous voulez faire quoi en plus?
Alors, déjà, il faut dire une chose, c'est que les fintechs, ce n'est pas un univers sans foi ni loi. Il y a des lois, c'est-à-dire il n'y a pas de fintech aujourd'hui qui opère sous le radar réglementaire, ça n'existe pas. Nous-mêmes, on est régulés par l'AMF, la CPA, enregistré auprès de la Banque d'Italie, la Banque d'Espagne, la CNMV, et on est en train d'ouvrir l'Espagne et les l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc on va encore avoir deux nouvelles autorités de tutelle. Donc on est clairement régulé. Hein. Ça c'est très important. Et non seulement on est régulé, mais en plus on veut être régulé. On veut être régulé pour une raison toute simple, c'est que quand vous rentrez dans ce business de la fintech, votre matière première c'est l'argent. Et pour gérer de l'argent, il faut de la confiance de la part de vos clients. Et la réglementation est une manière de créer la confiance parce que c'est la seule personne qui peut vérifier que tout ce qu'on raconte, tu parlais de marketing tout à l'heure, que vérifier que ce qu'on raconte en matière de marketing, c'est vrai. Mmh. C'est vrai, parce qu'on peut faire des promesses incroyables, et on l'a vu dans la tech de manière générale, il y en a des entreprises qui en font des promesses incroyables et qui ne sont pas vraies. L'avantage dans la fintech, c'est que quand les promesses incroyables sont faites, si elles ne sont pas vraies, en général, vous êtes vite rattrapé par la patrouille. Donc ça, c'est fondamental, et aujourd'hui, les régulateurs, on doit leur rendre hommage à ça, en tout cas en Europe continentale, sont très pro-fintech, c'est-à-dire c'est pas qu'ils sont coulants avec les fintechs et qu'ils laissent passer des choses qu'ils ne devraient pas passer, mais en tout cas, ils instruisent très vite les dossiers, ce qui est fondamental parce que contrairement à des établissements établis, on ne peut pas se permettre, nous par exemple, d'avoir un délai d'agrément qui dure un an et demi, deux ans, parce que pendant ce temps-là, on ne fait pas de chiffre d'affaires et donc on ne vit pas. Donc aujourd'hui, on a
et vous ne prêtez pas d'argent au TPE
et qui savent très vite dire oui ou non. Et ça, faut leur rendre hommage de ce point de vue.
Alors, qui prend la parole? Fabrice Audan.
Je pense que clairement, l'activité, elle est régulée, elle est suivie. Je pense qu'il y a une prise de conscience dans tous les pays européens de l'importance de vous laisser aller vite. Parce que si vous n'allez pas vite, effectivement, vous ne pouvez pas démarrer. En respectant un certain nombre d'exigences en termes de sécurité, que ce soit sur les données, que ce soit sur les reporting, que ce soit sur le compliance, le suivi du KYC. Et tout ça étant quand même facilité pour les fintechs.
Renaud Lemoyle.
En fait, moi, sur les fintechs, je vois effectivement, j'observe que ce sont les acteurs qui sont très sérieux dans la manière de faire leur métier, très sérieux d'un point de vue réglementaire. On est, nous, associés, je l'ai dit, à Litchi, à Pumpkin, à Linkso, à pas mal d'autres. Et c'est une donnée quand même assez claire que de voir la réglementation poussée pour permettre l'éclosion de nouveaux acteurs et en même temps des équipes qui sont très sérieuses et qui font leur métier de manière très rigoureuse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas allier, ou en tout cas, jouer sur le fait qu'il y a un petit acteur qui naît et en même temps il serait peut-être en marge de la réglementation. Non, la réglementation, certes, évolue, reste draconienne malgré tout et très bien appliquée par ces acteurs. Et j'ai envie de dire, pour nous, acteurs bancaires classiques, ça nous apprend finalement à réinventer notre métier. Je raconte souvent cette histoire quand j'ai rencontré il y a maintenant 6-7 ans Hugues Lebray et Riyad Boulanoir qui ont donc lancé le compte Nickel. Ils sont venus me voir dans mon bureau. On a été le premier à leur faire confiance pour leur traiter leur position en tenue de compte. J'ai demandé à Riyad, mais comment tu as fait pour inventer un compte bancaire? Il dit, moi, on m'a donné la réglementation, on m'a dit, il faut que ça marche. J'ai fait un compte bancaire parce qu'on me pensait qu'il fallait le faire. Donc, en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ces acteurs qui réinventent une partie de nos métiers sont ces acteurs qui nous aident à réinventer notre propre métier. À force d'être, entre guillemets, toujours dedans tous les jours, peut-être qu'on perd de vue un certain nombre de sujets dans la manière de traiter technologiquement parlant les sujets et la manière de traiter en termes de relations. L'intérêt de travailler avec des fintechs, me semble-t-il, c'est l'intérêt qu'on les trouve, nous notamment, c'est de faire en sorte de s'améliorer dans la couche technologique, de s'améliorer éventuellement dans le marketing d'acquisition, qui est un marketing important quand on est un acteur de la banque, et en même temps, de mettre en perspective un peu plus ce que les gens attendent dans le domaine de la relation. Donc finalement, là où on opposait parfois, et j'entendais Olivier tout à l'heure dire, attention, les fintechs sont pas n'importe qui, ce sont pas des barbares, effectivement, comme on les a souvent appelés, ce sont des acteurs qui nous amènent finalement à repenser notre modèle, le repenser dans des dimensions qu'on n'apprenait pas forcément, qu'on n'avait pas forcément en tête, et en même temps, nous amènent à repenser la manière dont nous-mêmes nous pensons notre marketing relationnel. Et c'est en cela, à mon avis, que les alliances sont importantes.
Voilà,
intéressant.
On voit les frontières qui s'estompent de plus en plus, Jean-Pierre Lefebvre, et en effet, la question d'opposer les uns aux autres. Ils font tous bien leur travail.
Et ça amène deux sujets de réflexion qui sont au cœur de nos projets. Le premier, c'est celui de la singularité. Hein, on est dans un monde bancaire que les gens comprennent pas bien. Je parlais tout à l'heure du métier de la banque. C'est une notion importante, mais ça amène la notion de singularité. On va demain avoir certainement en face de nous une bataille de marques. Et une marque, elle existe si elle se démarque, si elle a un véritable contenu, si on sait clairement afficher sa mission. Et ça, je pense que c'est un territoire marketing, vous en avez parlé tout à l'heure, que les banques n'ont pas encore vraiment compris et sur lesquels il va falloir qu'elles se bagarrent. Donc il va falloir être singulier et l'arrivée des nouveaux services, des nouvelles possibilités, le lissage va pas dans ce sens-là. Et la deuxième chose, c'est que aujourd'hui, je prends un exemple qui est très simple. Quand vous allez dans un restaurant un peu moderne, souvent la cuisine est ouverte. Vous voyez ce qui s'y passe. Bon, eh bien, je pense que les consommateurs et notamment les jeunes ont envie de savoir quel est le métier de la banque, qu'est-ce qu'elle fait, que devient mon argent quand je le mets, d'où il vient quand je l'emprunte, etc. Et je pense que il y a un discours à développer sur le métier. Il y a un discours à développer sur une clarification de l'offre et encore une fois, une offre ramenée à ma vie à moi. Et tout ça nous donne des pistes d'évolution qui sont extrêmement claires.
prêt à montrer les cuisines, Roland Lemoyne.
Pour illustrer ce propos, parce que je trouve que c'est effectivement, je partage tellement cette idée. Nous, on a racheté Pumpkin. Pumpkin, c'est quoi? C'est un acteur qui permet aux jeunes de se verser l'argent entre eux dans le cadre de leur vie de tous les jours. Ils font quoi, finalement, Pumpkin? Finalement, derrière, c'est la technologie qui vise à faire du paiement entre personnes. Mais leur promesse, c'est pas ça.
C'est du
leur promesse, c'est vous rendre la vie plus simple, plus facile sur les campus universitaires et ailleurs. Et en un clic, vous faites un transfert d'argent à qui que ce soit. Pumpkin, aujourd'hui, c'est 1000 nouveaux clients recrutés par jour. Par jour. Pourquoi? Parce que ce qu'ils promettent, c'est pas un produit. Ce qu'ils promettent, c'est une expérience, un nouveau mode relationnel.
Ouais.
Et c'est 1000 nouveaux clients par jour pour un acteur bancaire, c'est énorme. C'est une boîte, ils sont 35-40, ils répondent à tous les canons qui vont bien en termes réglementaires, mais simplement, ils se sont réinventés ou réappropriés un territoire de jeu, qui est le territoire de jeu dans lequel les clients retrouvent une promesse qui fait sens pour eux.
Alors Jean-Pierre Lefebvre et Fabrice Audan, KPMG.
Ils ont une marque, ils ont un ton relationnel qui est connivant avec leur cible. Hein, il parle un peu Jones, ce que les banques savent pas aujourd'hui faire. C'est rapide, c'est facile, on le fait en jouant, et c'est gratuit. On est vraiment là dans la panoplie de ce qui aujourd'hui fait bouger tous les marchés.
Fabrice,
juste un chiffre qui résume bien le débat. On a fait une enquête auprès de 350 banques, une trentaine de pays, sur les facteurs, les sources d'innovation. Pour 73% des personnes interrogées, les fintechs sont les plus grandes sources d'innovation.
Ouais.
Donc ça illustre bien ça.
Elle pousse les banques. Arkéa qui permet désormais à ses clients titulaires d'une Mastercard de payer leurs achats avec des mondes connectés aussi.
Vous avez ça. Exactement. En fait, on est les mondes Garmin ou autres. On a été très souvent pionniers sur le paiement. D'ailleurs, j'en profite pour dire, Amazon en France, le seul pays au monde où Amazon utilise un processeur externe qui n'est pas lui, c'est en France. C'est notre filiale, Monex, qui le fait. Donc on a été très souvent présents sur les paiements. Effectivement, on propose le paiement via une montre connectée. On a été la première banque via Max, qui est une fintech qu'on a créée, à proposer à n'importe quel client, dans n'importe quelle banque, de pouvoir payer avec l'Apple Pay, même si sa banque ne le proposait pas, grâce à une carte agrégatrice. Donc effectivement, le paiement est un cheval de Troie intéressant pour accéder ensuite à pas mal d'univers.
Juste, il y aura encore des cartes bancaires à terme ou pas?
Je pense que la carte physique, à terme, va tout doucement disparaître. D'ailleurs, je vois dans mon iPhone, moi j'ai un iPhone et j'ai un porte-carte derrière, ouais, juste pour me rassurer. Mais la réalité, c'est que je paye mon iPhone tout le temps.
Oui, au final, la banque de 2018, c'est quoi? Qu'elle soit digitale ou qu'elle soit physique, elle doit ressembler à quoi concrètement?
Moi, je pense que la banque de demain, la banque de 2018, c'est une banque qui accepte qu'il y a trois couches de valeur dans son métier. Une couche qui est de la transaction, une couche opérationnelle, une couche relationnelle. La transactionnelle, c'est tout ce qui peut être digital. Moi, je suis entré il y a 25 ans dans la banque. À l'époque, on se battait pour pas envoyer les cartes à domicile pour que les gens viennent les chercher dans l'agence. Je donne ça en caricaturant, mais ça veut dire que demain, et c'est déjà le cas aujourd'hui, on ouvre un compte en ligne, on peut faire un crédit immobilier en ligne, tout ce qui peut être transactionnellement fait par le digital.
On doit pouvoir le faire en pleine nuit.
24 heures sur 24 tout le temps. Donc tout ça, il faut l'accepter, il faut le faire. Nous, on a pris ce virage. L'opérationnel, c'est l'excellence de l'interaction tous les jours. Je vous appelle, je fais un SMS, je fais un WhatsApp, un Facebook. Il faut le zéro défaut. Il faut de l'Amazon, de la banque dans la qualité opérationnelle. Il y a trop de gens qui reçoivent encore des courriers. Bonjour le moelle, signé service client, police 12 en 4 exemplaires. Non, il faut être zéro défaut. Ça, c'est hyper important. Ne pas entendre de bruit entre le client et le back-office, finalement, qui est au bout de la ligne. Et puis, la troisième dimension, c'est ne jamais oublier que notre métier, c'est de l'expérience et du relationnel. Et ça veut dire qu'il faut considérer que le magasin a de l'avenir. Le magasin n'est pas mort, pour plagier Catherine Barba. Simplement, le magasin n'existera que si ce qu'il promet, ce n'est pas juste la même chose que sur le téléphone. Ce qu'il promet, c'est de ne pas vous faire un crédit immobilier. Ce qu'il promet, c'est une promesse pour vous faire vivre un rêve qui est votre projet de vie à vous. Et ça, nous, c'est ce qu'on a commencé à faire dans le nouveau format d'agence. Plus de guichets, plus d'ordinateurs. Que des lieux de vie. On a proposé des endroits où on attire les gens pour qu'il y ait du trafic qualifié et des gens qui se retrouvent dans une expérience. C'est ça la banque d'aujourd'hui et de demain.
Qui travaille dans une banque? Qui doit-on trouver et proposer quel type d'offre dans une agence physique? Cette fois, Jean-Pierre Lefebvre, vous, qui travaille chez Lonza. Le design, c'est un outil clé au service de
la banque. Le design, c'est un outil clé parce que quand vous voyez un lieu, intuitivement, même sans avoir fait une école de design, vous savez dire si vous allez vous sentir bien, si vous allez être écouté, si vous allez être reconnu. Et donc, ça, c'est très important. La banque de demain, on commencera par vous dire bonjour. Et la première chose, si j'ose dire, que vous verrez, c'est un homme ou une femme qui vous dira bonjour. Je pense que ça, c'est un très grand combat et qui sera peut-être debout. Hein, ça, c'est culturellement, c'est très difficile à faire passer. Ensuite, c'est un endroit dans lequel on vous recevra dans des conditions d'écoute d'excellence. Vous serez pas dans un bureau avec des tas de dossiers partout. Vous serez dans un endroit où vous serez écouté, vous serez à égalité, peut-être assis même à côté, hein, en coproduction avec votre conseiller. Ça, c'est très important.
On y fera quoi comme type d'opération? On fera plus de remettre des chèques.
Du conseil, on parlera de sa vie, on parlera des choses qui sont importantes dans sa vie. Et c'est là aussi que
les banques physiques resteront pour les grosses opérations quelque part. Les emprunts immobiliers. Non.
Je crois que on a fait avec notre planning stratégique une étude sur les jeunes et l'argent. On se rend compte que il y a une jeune génération qui va arriver, ça va faire mal, parce que c'est une génération qui a aucune notion de fidélisation à une marque ou à une autre, donc ça c'est déjà un premier choc par rapport à ce qui a été vécu dans le passé, mais c'est surtout une relation qui est très mal éduquée par rapport à la gestion. Donc je pense que, et si les banques le font pas, il y a des fintechs qui le feront, il y a un vrai rôle, entre guillemets, d'apprentissage, de gamification sur qu'est-ce que c'est que la gestion de son portefeuille.
Alors rendons-le moi, allez-y Olivier Gouallet.
Je pense que le challenge pour arriver à ce qui est décrit là, qui est le monde parfait, il y a un challenge gigantesque chez les banques, au-delà de l'héritage technique, technologique, parce qu'il faut transformer un système d'information existant dans un système d'information qui permet de faire tout ça, et ça c'est pas simple, parce qu'à un moment donné, il faut débrancher l'existant pour reconstruire par-dessus. Il y a un challenge aussi gigantesque qui est de ressources humaines. Oui. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des top management dans les banques qui montrent en exemple, mais vraiment incarné, vraiment totalement incarné, il n'y aura jamais de transformation dessous, parce que je vous promets que dans une organisation, c'est pas qu'une banque, n'importe laquelle, vous avez toujours des départements qui sont là pour dire non, on peut pas faire ça. Prenez le réglementaire, c'est un très bon exemple. Vous parlez du réglementaire. Le nombre de fois où vous négociez avec des grands établissements, vous dites non, on peut pas faire. En fait, ils peuvent faire, mais simplement, il faut avoir cette culture de la remise en cause.
Alors, Renan Lemoyne, l'Arkéa.
Je pense qu'il faut, un, que le sujet soit pris à haut niveau, effectivement, parce que sinon, on peut pas impulser une dynamique. Deux, je crois effectivement fondamentalement que la dimension de coaching financier, ce que vous évoquiez tout à l'heure sur comment est-ce qu'on accompagne les gens dans leurs projets de vie importants, y compris d'ailleurs en côte à côte, ce qu'on fait déjà nous chez nous, effectivement, dans des lieux un peu sympas où effectivement, on n'a pas le sentiment d'être dans une relation dominant-dominée, mais d'égal à égal. Ça, c'est fondamental. Et je crois qu'effectivement, il faut être capable de se dire que demain, la technologie doit permettre de faire tout ce qu'on croyait être l'apanage des banques uniquement demain. Et la valeur que le banquier va créer, d'ailleurs, est-ce que le mot banquier existera toujours? Je ne sais pas. C'est une valeur qu'il créera dans la relation, l'expérience qu'il aura avec son client.
Que va-t-il rester aux banques? Fabrice Audan, KPMG?
Je pense que le défi, c'est de pouvoir changer, en fait. Innover pour une banque, c'est déjà accepter, dire dans une banque, on va innover, on va mettre 20 millions ensemble, et on sait que 10 ou 15 millions vont être perdus. Donc, il y a le droit à l'échec. C'est très compliqué.
Il leur reste quelque chose aux banques, donc.
Et c'est pas 20 millions qu'il faut.
Et en plus, c'est beaucoup plus que 20 millions.
Si c'était 20 millions, c'est très facile.
Moi, je pense qu'il y a urgence, en fait. Il leur reste une mission fantastique dont les banques parlent peu, ce qui m'a toujours beaucoup étonné. Encore une fois, c'est, à travers leur métier, ce sont des accompagnateurs, des projets du quotidien. Ce sont des gens qui rendent possible, des choses fantastiques qu'on pourrait pas faire tout seul.
Juste d'un mot.
Le mot de la fin, et on dira quoi?
Notre slogan, c'est la banque qui va avec la vie. Et je crois que c'est ça, notre métier. La banque qui va avec la vie.
Vous voulez dire vraiment un petit mot?
Ah non, c'est une touche de poésie, on reste là-dessus.
Eh ben, très bien, Olivier Goua. Merci à tous. Merci donc Renan Lemoyne, directeur général du Crédit Mutuel Arkéa. Jean-Pierre Lefebvre, associé senior dans l'agence de marque et de design Lansdal. Olivier Goua, fondateur de Lendix, qui est le numéro 1 du financement participatif pour les entreprises. Et puis Fabrice Audan, associé dans le cabinet conseil KPMG, en charge donc du secteur bancaire. On revient vite avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business, toujours à la radio et à la télé, bien sûr.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.